Salut oh my Goalers, on est de retour pour un nouvel épisode de Call Interview et cette fois c'est Julien Faubert qui est à mes côtés. Alors on va parler de plein de choses passionnantes évidemment et surtout de son transfert vers le Real Madrid mais un petit peu aussi de West Ham parce qu'il y a une belle histoire là-bas. Mais avant qu'on débute, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des épisodes de Call Interview bien sûr et ne rien manquer des vidéos proposées par Oh My Goal chaque jour. C'est parti. Julien Faubert, parlons foot parce que la réussite à Bordeaux elle est là mais tu fais quand même le grand saut vers la Première Ligue, tu vas à West Ham.
Ouais.
Alors déjà, comment ça se met en place tout ça de ton côté? Comment tu l'apprends et comment tu le vis?
Déjà, West Ham, c'est sorti de nulle part déjà. Mais au départ, j'arrive au bout de tout ce que j'ai pu vivre à Bordeaux. J'ai un de mes mentors qui s'en va, qui est Ricardo, ancien joueur du PSG,
ouais.
Qui s'en va, qui essaie de me faire venir à Monaco quand il va à Monaco, mais Bordeaux, hors de question. Donc, j'ai une opportunité d'aller à la Roma. Donc, on se déplace là-bas avec mon agent, on rencontre l'entraîneur Spalletti à l'époque. Donc, on prépare, mon contrat est prêt. Mais Bordeaux veut 9 millions. La Roma met 6 millions. Donc, hors de question. Et j'ai les Glasgow Rangers qui se présentent avec 10 millions. Donc, je me dis, l'Écosse est souvent un tremplin pour aller en Première Ligue. Moi, mon rêve, c'était d'aller en Première Ligue. Il y avait rien d'autre. Donc, on se présente, on rencontre les émissaires de Glasgow. Le contrat commence à se préparer. Et j'ai mon agent qui reçoit un coup de fil. En plein échange avec les Glasgow, il s'en va, il est dehors, il m'envoie un texto, il me dit dans 5 minutes aux toilettes.
La pièce pour
faire. Je vais aux toilettes comme par hasard, tout se fait là-bas. Je vais aux toilettes et il me dit écoute, on a un club de première ligue, boum, mes yeux, comme ça, à Londres. Bon, comme ça, et je lui dis vas-y, dis-moi, il me dit West Ham. Pour moi, comme tout jeune, c'était le Big Four et je ne connais pas encore l'historique de West Ham. Je lui dis écoute, hey, on n'hésite pas, on y va. Il me dit t'es sûr? On y va. J'avais un agent qui avait une paire comme ça. Et ils s'assoient à table et en anglais, il leur dit, écoutez, on a un truc à faire absolument là maintenant. Il faut qu'on s'en aille. Mais on vous tient au courant de comment ça se passe. Pas de souci, machin. On monte dans la voiture. Je dis, mais on va où? Il dit, il y a un avion qui nous attend. On retourne à Bordeaux. Ils nous attendent à Bordeaux pour négocier ton contrat. Et on arrive à Bordeaux. On s'assoit à table avec les mecs de West Ham. Mon agent leur dit directement, est-ce que c'est réglé les modalités de transfert? Ouais, c'est bon. Nous, on met 12 sur la table. Pas de souci, c'est fait. Donc maintenant, on parle du joueur. Donc mon agent avait préparé, je me souviendrai toujours, un petit papier du bar où on était, mon contrat. Et naturellement, il leur montre ça avec les salaires, avec les années, 4 ans. Le gars, il regarde 2 secondes, il me dit, ouais, ok, c'est bon. Et en rigolant en anglais, il me regarde, il me fait, do you want 5 years? Il dit, tu veux 5 ans? Je dis, ouais, moi, 5 ans. Il me dit, ok, 5 ans. Et c'était réglé comme ça. C'est parti comme ça.
C'est incroyable.
Ouais, il me voulait absolument et c'est parti comme ça et je deviens un joueur de West Ham.
Et c'est une grande histoire d'amour qui commence parce que nous, alors, la Première Ligue, c'était important.
Mm-hmm.
Mais franchement, il faut se dire les choses avec toute honnêteté et transparence. Mm-hmm. Le Big Four était très important en France. On n'avait pas cette vision sur l'entièreté du championnat. Aujourd'hui, tout le monde connaît West Ham. Aujourd'hui, tout le monde connaît même le 20e de Première Ligue. Tout le monde sait qui c'est.
Mm-hmm.
Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Toi, quand même, tu te retrouves en Première Ligue. Et tu as raison de le signaler, ce n'est pas n'importe où, c'est à Londres, tu n'es pas dans le fin fond de l'Angleterre, tu es à Londres, monsieur.
Mm-hmm.
Est-ce qu'il y a la folie des grandeurs un petit peu qui se met en place dans ta tête?
Totalement, ce n'est pas les mêmes salaires. Comme je l'ai dit toujours, c'est qu'on a un moment dans notre carrière, très souvent ça arrive au début, malheureusement pour certains ça arrive à la fin, mais on perd pied, c'est logique. On perd pied parce qu'on n'a pas été habitué à tout ça, on n'est pas habitué à toucher autant d'argent. C'est pour ça que je tire un peu une sonnette d'alarme sur tout ce qui se fait dans les centres de formation. Je pense qu'il faut sensibiliser les jeunes à ce niveau-là. Tout le monde perd pied, on perd pied, moi le premier. Donc, ça s'achète des Ferrari, ça s'achète ci, ça s'achète ça, mais parce que tu peux. On se prend une maison qui est surdimensionnée par rapport aux besoins. C'est normal parce que je pars du principe où je ne pense pas qu'on doive jeter la pierre à des jeunes qui font ça parce qu'on n'a pas connu ça, donc pourquoi pas le connaître? Et je pense que c'est un peu le problème de la France, c'est ce côté tabou au niveau de, ou ce côté jalousie, entre guillemets, au niveau des jeunes de couleur ou non de couleur qui réussissent parce que, mais on s'est levé les fesses pour réussir, donc à partir de là, pourquoi pas? Moi qui adore les États-Unis, il n'y a pas de problème là-bas. C'est montrer sa réussite, c'est aussi ça, mais en aucun cas, j'ai un regret parce que dans ma carrière de footballeur, j'ai vécu une vie grâce à l'argent. Et j'ai fait vivre aussi des choses extraordinaires à mes proches. Donc, c'est le plus important.
Je t'avoue, je vais être transparent. Je suis un peu surpris. Je sens presque pas complètement, mais je sens presque un mea culpa de ta part. Alors, je te jure que ma question, elle est des plus basiques. Mais on te l'a reproché? On t'a dit des choses?
Non, jamais. On ne me l'a jamais dit parce que moi, je n'ai jamais été non plus quelqu'un de bling-bling. Parce que je pars du principe où on joue qu'au foot, on ne sauve pas des vies, on a le droit de bien vivre sans jamais trop exagérer. Je n'ai jamais été quelqu'un qui. Voilà, je m'ai acheté des belles voitures parce que ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait. Mais moi, par contre, je suis fier. Au contraire, ce n'est pas du tout un mea culpa. Je suis fier d'avoir pu faire voyager ma mère. Je suis fier d'avoir pu. Voilà, quand elle voulait venir au match, tac, 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 faciliter sa vie, c'est ce qui m'importe en fait. Donc, aucun regret par rapport à ça,
D'accord.
parce que je les ai fait kiffer. Mon meilleur ami depuis plus de 25 ans, qui est quelqu'un de Simicard, il est là dans la région, et on en reparle encore. Il m'a dit, mais tu m'as fait kiffer. Mais voilà, il faut apprendre. Et c'est ce que je dis à mes enfants, vous allez faire des erreurs. Maintenant, c'est à savoir comment vous allez réagir par rapport à ces erreurs. Soit vous apprenez et vous ne les refaites pas, soit vous êtes un peu teubé et vous les refaites, tout simplement. C'est tout.
Revenons à West Ham. C'est une vraie histoire d'amour entre toi et West Ham parce que tu sais quoi? Pour être complètement franc, 5 minutes avant l'interview, j'ai reçu un DM sur Instagram de West Ham France qui me dit waouh, c'est Julien, ça va déchirer, tu vois. Mais toi, tu as tout connu, encore une fois là-bas. Tu as eu des débuts un peu difficiles la première saison.
Pas trop le choix en fait, parce que à l'époque, hein, je suis un
Ouais.
gros transfert pour le club.
Ouais.
11 millions de pounds, ça fait presque 12 ou 13 millions d'euros. Donc gros transfert. Je fais la prépa. Premier match de prépa, au bout de 20 minutes, je me pète le tendon d'Achille. Qui dit tendon d'Achille dit arrêt 6 mois. 4 mois de plus pour revenir à son meilleur niveau. Donc presque saison morte. Mes débuts en première ligue sont différés, mais pareil, un club qui m'a. Moi, je me suis tué pour ce club parce que quand je me suis blessé, ils ont tout pris en charge. Vraiment. Ils m'ont accompagné du début à la fin, sans jamais me laisser. Quand je venais voir les matchs en béquille, j'étais accueilli, j'en parle même pas. Et même les fans ne se sont pas dit, tu vois, en France, je suis persuadé, parce que c'est une mentalité totalement différente. Ils ne se sont pas dit, putain, il nous a coûté 11 millions d'euros, regarde. Non, au contraire. Je me suis dit, il fallait vite que je me remette parce qu'il fallait que je donne pour ce club. Et je suis quelqu'un, bah, comme tu peux le voir, je suis quelqu'un d'assez sentimental. Donc quand on me donne, je donne au centuple. Et c'est vrai j'ai lié un lien. Bon, il s'est passé quelque chose d'assez spécial. Donc voilà aussi pourquoi ça s'est endurci. Mais j'ai créé un lien extraordinaire avec les supporters et avec le club en lui-même.
Des trucs spéciaux, Julien.
Ouais, bon, malheureusement, hein, voilà, je reçois un coup de fil de ma maman un lundi qui me dit qu'elle est tombée 2 fois. Je rappelle, je lui dis, écoute, est-ce que tu as bien mangé? Est-ce que si, est-ce que ça? Elle me dit, oui, tout va bien, machin. Elle me rappelle, elle me dit qu'elle est tombée une troisième fois. Donc là, je m'inquiète un peu. Donc, perdu connaissance, tombée. Donc, j'appelle un ami qui était spécialiste à la Salpêtrière à Paris. Je lui dis, écoute, voilà, il se passe ça, machin. Elle me dit, c'est pas normal, il faut l'appeler. Donc, il la rapatrie et on apprend qu'elle a une tumeur au cerveau inopérable. Donc, au départ, on me dit que, bon, entre 6 mois et 1 an. Donc, quand tu n'es pas prêt, il y a un coup, tu prends un vrai coup sur la tête. Surtout moi, j'étais comme ça avec ma mère. Donc,
Ouais.
compliqué. 2 jours après, moi, je l'ai toujours au téléphone. 2 jours après, il me dit que, enfin, le spécialiste me dit qu'ils l'ont plongé dans le coma parce que ça s'aggrave. Donc, ça se passe le lundi, le mercredi et le jeudi, dans la nuit, malheureusement, elle décède. Donc, moment compliqué, très compliqué pour moi, mais je connaissais ma mère, quoi. Donc, je savais qu'elle n'aurait pas voulu que je me morfonde. Donc, le samedi, je suis sur le terrain en train de jouer. Parce que j'en avais besoin, j'avais besoin d'un exutoire, j'en avais besoin. Je ne sais pas comment les supporters l'ont su. Et à partir de là, voilà, c'est ça qui s'est créé, en fait. C'est pour remettre dans son contexte en Angleterre. Il y a des gens qui se font incinérer et leurs cendres sont déposées dans les coins du stade. Donc pour eux, c'est beaucoup plus qu'un jeu. C'est d'enfants, de père en fils et de grands-parents à parents. Donc c'est vraiment un truc de fou là-bas. Et quand ils ont su ça, bah, j'ai été ovationné. Voilà, bon, c'était compliqué pour moi émotionnellement, mais quand je débordais sur le côté, j'avais l'impression d'être porté. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et encore aujourd'hui, on est parti avec mon fils pour son anniversaire au stade olympique. Et je suis arrivé, et pourtant on a été à Bordeaux, hein, mais je suis arrivé et mon fils m'a dit, papa, on dirait que t'es jamais parti. J'avais centaines de personnes autour de moi à me prendre dans les bras, à être content que je sois revenu, alors que je joue plus. Mais c'est ça l'esprit anglais. C'est pour ça que ce club, ce pays, cette mentalité autour de ce sport, on a 100 ans de retard, nous. On a 100 ans de retard. Donc, et ils ont honoré. Voilà, par des chants, par tout ça, la mémoire de ma mère. Donc à partir de là, on est ensemble, quoi. C'est comme ça. C'est comme ça.
C'est incroyable.
Ouais.
Le football en Angleterre, c'est incroyable. Je suis désolé, hein, je suis désolé bah, pour ta maman. Je sais que tu me le dis là, en plus, qu'elle était hyper importante pour toi. Donc, je suis désolé. Et encore une fois, ça montre que tu as marqué, des gens. Tu vois, on parlait de la bienveillance autour de toi. Tu as marqué des gens. Alors qu'encore une fois, ton arrivée, elle est compliquée. Tu ne joues pas. Tu dégages quelque chose. Tu dégages quelque chose qui fait qu'on s'attache à toi. C'est assez fascinant. Bon, on a parlé de cette première saison. Particulière, qui est très particulière. Mais la saison d'après, c'est autre chose. La saison d'après, on sent un Julien qui dit « Bon, je suis venu pour quelque chose, je vais montrer maintenant. » Et tu pètes tout. Tu es titulaire, indiscutable. La première ligue, je dis bien la première ligue parle de toi. On n'est pas seulement sur West Ham ou les fans de West Ham, on est sur tout un pays de foot qui parle d'un joueur. Donc, c'est quand même costaud. Moi qui suis fan de Tottenham, je me rappelle avoir eu des discussions de « imagine », tu sais. Ouais. C'est bizarre d'ailleurs d'en parler avec toi maintenant. Mais bref, tu pètes tout, tu fais 19 matchs. Malgré tout l'attachement qu'il y a autour de West Ham, tout ce que tu as vécu, etc., il y a la petite surprise qui vient. Alors ça, faut que tu m'en parles. Parce que dès que j'ai dit que j'avais Julien Faubert en interview, c'était la même question. Quand j'ai dit « enfin, donnez-moi les questions que vous voulez poser à Julien », boum, Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid. Bon, j'ai trié, parce qu'il faut parler d'autre chose. Mais on y vient. Donc, le Real Madrid, il faut que tu me dises tout, Julien. Il faut que tu me dises comment c'est parti. Il faut que tu me dises comment tu l'as vécu. Il faut que tu me dises comment ça s'est fini. Mais pour commencer, comment est-ce qu'un mec qui est autant attaché à ce club-là de West Ham, qui vit autant de choses dans un laps de temps si réduit, arrive à se dire, même si c'est le Real Madrid, bah, peut-être qu'il faut partir.
Bon, après, Mais ce qu'on ne peut pas dire, même si c'est le Real Madrid, c'est-à-dire que voilà, on parle du Graal pour un footballeur.
Ouais.
Voilà, on parle de ça. On parle de ce qui se fait de mieux au monde, d'un point de vue historique, d'un point de vue tout, quoi. Et il y a deux clubs qui sont comme ça. C'est, pour moi, le Real et le Barça, c'est le Graal dans le football. Comment tu veux refuser ? Personne ne pourrait refuser, c'est impossible. Donc à partir de là, même en sachant, en étant objectif, en disant... Ça va être compliqué, hein. Mais c'est à vivre. Et moi, je ne suis pas parti là-bas non plus pour le vivre. Hein. Comme je te dis, je suis un compétiteur. Donc, quand je vais là-bas, c'est que j'ai envie de jouer là-bas. Mais maintenant, les choses n'ont pas fonctionné comme il fallait. Mais j'étais obligé de, entre guillemets, au qui. Enfin, ce n'est même pas une obligation. C'est que c'est un honneur de faire partie de cette famille. Et même si ça a été que 6 mois, Et puis, ça rentrait dans mes étapes. Voilà. Moi, quand j'étais petit, j'avais plusieurs étapes. Rentrer dans un centre. Jouer en pro, jouer pour mon équipe nationale et jouer dans un des plus grands clubs au monde. Malgré la carrière que j'ai eue, j'ai tout réalisé, je peux tout checker. Donc, à partir de là, voilà, ça s'est présenté. Et au départ, bon, je suis en déplacement pour aller à Fulham. Je reçois un coup de fil d'un numéro français que je ne connais pas, donc je décroche. Je suis dans le bus et voilà, j'ai une personne qui me démarche en disant « Écoute, je travaille pour le Real Madrid en France. » Ils avaient besoin d'un interlocuteur français pour discuter avec toi. Voilà, ils ont un intérêt vraiment. Si c'est bon, ils peuvent être là ce soir. Et moi, je dis, écoute-moi frérot, bah, là, j'ai pas le temps, je vais jouer un match. Et tu travailles réellement pour le Real Madrid, tu trouveras le temps d'appeler mon agent et tu trouveras son numéro surtout. Et je raccroche, je coupe mon téléphone. On joue Fulham, je fais un super match, on gagne 3-2. Je sors de là. J'allume mon téléphone, mon agent, rappelle-moi, c'est urgent, rappelle-moi, mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que je fais ? T'es mon agent, t'es supposé savoir que je joue déjà. Mais qu'est-ce que tu fais ? Rappelle-moi, c'est urgent, tac, tac, tac. Je le rappelle, je fais, qu'est-ce qu'il y a gros ? Qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, bon, t'as reçu un appel d'un... Je dis, ouais, c'était bidon. Il me dit, non, c'est pas bidon, je lui ai au téléphone, je prends l'avion là de Marseille, ils sont là ce soir, il faut que t'ailles chez toi, prends tes affaires. Il y a les émissaires du Real Madrid qui arrivent, il va falloir qu'on les rencontre. On part là-bas, ils sont à l'hôtel à Heathrow, on est là-bas, et on commence à négocier. Donc voilà, machin, prêt, ok, pas de souci. West Ham, je crois qu'à ce moment-là, ça ne se passait pas très bien avec le board, avec le chairman, le président. Donc, le président est ok, mais il a été ok quand il ne savait pas le nom, quand il a su le nom. Il a dit, non, maintenant, on parle du Real Madrid, donc il va falloir payer. On est resté là-bas jusqu'à 1h du matin parce que j'étais le deuxième choix, en fait. Voilà, en étant transparent totalement, j'étais le deuxième choix. Le premier choix, c'était Valencia, qui était à Wigan. Par chance, pour moi, il a signé à Manchester United. Donc, cette première option sortait et j'étais la deuxième. Donc, quand c'est sorti, ils se sont mis d'accord très rapidement et les contrats étaient prêts. J'ai signé au Real Madrid. Le lendemain matin, je prenais un jet privé pour aller à Madrid faire la visite médicale.
Comment on te vend le projet ? Là-bas, on parle de... Comme tu dis, je n'ai pas besoin de dire de quel statut ont les joueurs qui sont là-bas. Je n'ai pas besoin. Toi, tu sors d'une saison compliquée par les blessures où tu as été performant à Bordeaux, tu as été performant là encore sur la demi-saison, tu es hyper performant avec West Ham, mais on ne parle pas d'un joueur qui est à Manchester, on ne parle pas d'un joueur, tout ça. Toi, avec le recul que tu as, surtout aujourd'hui avec le recul que tu as par rapport à ta carrière, comment on te vend le fait que tu rejoignes le Real Madrid ? On te dit doublure, on te dit titulaire, on te dit quoi ?
Non, on me dit doublure. On me dit doublure, on me dit que j'ai été suivi depuis tout jeune, en fait, depuis mes premiers pas en équipe de France Espoir. Donc, suivi tout au long, je vais revenir sur le club que tu supportes, c'est-à-dire que j'ai fait un match de folie à White Hart Lane à l'époque contre Tottenham et l'entraîneur, c'était Juan de Ramos. Mm-hmm. Juan de Ramos, qui est devenu l'entraîneur du Real Madrid, voulait une doublure qui allait vite, qui était puissant pour pallier au pépin un peu physique de Robben. Valencia, premier choix qu'il a vu en première ligue, et moi derrière. Donc, oui, ça s'est fait. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et bon, malheureusement pour moi, les pépins de Robben se sont arrêtés quand je suis arrivé. Mais il était en feu, avec toute objectivité, c'était un monstre. Mais j'ai rejoint le vestiaire de la Casablanca, comme on dit, comme ça.
Bon, bah, parle-moi-en de ce vestiaire. Parce que tout le monde n'a pas la chance de. Et moi, je n'ai pas tous les jours la chance de parler à un joueur qui a été dans ce vestiaire. Donc dis-moi, toi. Tout Julien que t'es, quand t'arrives là-bas, alors déjà t'as halluciné quand on t'a appelé, t'y croyais pas carrément, tu pensais que c'était bidon quand on t'a contacté. Quand tu mets le pied dans ce vestiaire-là, on ressent quoi ?
Déjà, il y a une première chose, c'est quand tu mets le pied dans le bureau dans lequel tu vas signer, c'est vraiment blanc. T'as trois maillots au-dessus du bureau, Raoul, Casillas et Guti à l'époque. Et les joueurs qui étaient là encore en ce moment. Et tu te rends compte un peu du poids du truc. C'est-à-dire que, je vais aller rapidement, c'est la prise en charge pour un joueur, c'est juste extraordinaire. Tu penses qu'au football. Tu arrives, l'école pour mes enfants était prête. Ma maison était prête. Ma voiture était prête. Mes affaires, mon costume pour la conférence, enfin, tout, tu penses qu'au football. Et quand tu arrives dans ce vestiaire, c'était Guti, Van Nistelrooy, Casillas, Sergio Ramos, Salgado, Marcelo, enfin tout ça, et tu te dis, ouais, Cannavaro, sortait juste de son ballon d'or, ouais, là, quand même, c'est assez violent. Mais tu te rends compte, en fait, que c'est un vestiaire comme les autres. Ça blague, ça délire, ça rigole. Par contre, tu te rends compte aussi que les mecs, ils n'arrivent pas une demi-heure avant l'entraînement. Ils sont là une heure et demie, deux heures avant l'entraînement. Ils vont en salle pendant une heure. Tu vas t'entraîner. Quand tu mets un pied sur le terrain, il n'y a plus de rigolade. C'est-à-dire que c'est sérieux. Ça bosse, j'ai appris vraiment l'esprit de gagneur. Parce que tu te dis, attends, les mecs, ils ont tout gagné. Ligue des champions, ballon d'or, coupe du monde. Mais tu vas jouer, tu rentres dans le vestiaire contre Retafe, sans manquer de respect à personne. Les mecs, ils ont les dents comme ça parce qu'ils veulent tout gagner. Les petits jeux, les trucs, ils veulent tout gagner. Donc, à partir de là, tu apprends. Même dans des grands vestiaires, il y a de la bienveillance. C'est-à-dire que moi... je parlais très bien l'anglais, donc avec les Néerlandais, c'est passé fluide. En plus, c'est des générations que moi j'ai rencontrées au championnat d'Europe, donc on se connaît, espoir. Donc je les connaissais, Van der Vaart, Huntelaar, je les connaissais tous. Et tu te rends compte aussi que Salgado parle anglais, donc il te met à l'aise. Et moi j'ai appris l'espagnol très rapidement, donc j'ai parlé espagnol très rapidement. Tu délires avec Marcelo et tu te rends compte que. Mais par contre, quand t'es là-bas pour bosser, tu bosses et tu bosses comme un chien. Et voilà, et tu te rends compte de l'exigence du très, très haut niveau. À leur côté, j'ai progressé énormément techniquement. Quand tu joues avec les meilleurs, de toute manière, tu n'as pas le choix. Par contre, voilà, tu te rends compte qu'il n'y a pas de place pour l'erreur. J'ai vu des mecs, des jeunes de la réserve monter avec nous, rater des contrôles, se faire pourrir par Sergio Ramos, par Pepe, parce qu'ils ont raté un contrôle. Ça n'existe pas. Donc, tu te rends compte que voilà, si tu veux être à la hauteur, il faut bosser. J'ai bossé, je n'ai pas forcément eu ma chance. Je pense que j'aurais pu bosser encore plus, mais j'ai vécu une expérience extraordinaire, extraordinaire.
Donc, on est loin de certains a priori qu'il peut y avoir de l'extérieur, tu sais, la condescendance, le fait de te prendre de haut parce que tu es Julien Faubert et que lui, il est Raoul, ce genre de choses. On est loin de ça ?
On est loin de ça, parce qu'il n'y a vraiment pas eu de malveillance. Par contre, il faut savoir. Savoir où tu mets les pieds, savoir qui, parce qu'il faut le dire, qui est le patron. Parce qu'il y a des patrons. Raoul, c'est un patron. C'est quelqu'un qui franchement, qui n'est pas un gueulard, qui fait son truc, qui fait ses entraînements, qui avait son kiné perso, qui avait son prépa perso. Par contre, tu sais que c'est le patron. C'est Raoul, quoi. C'est le capitaine du Real Madrid. Donc, voilà. Mais quand je te dis, quand tu es assez intelligent pour savoir un peu les forces en puissance ou les choses comme ça, voilà, Raoul ne prenait jamais un tacle. Raoul ne prenait jamais un coup d'épaule par Pepe ou par Sergio Ramos. Mais comme j'ai pu entendre pour des amis qui ont joué à la Roma, c'est pareil avec Totti. Voilà, tu sais que c'est des légendes du club. Moi, j'ai eu des discussions avec Raoul, mais voilà, il a vu mon respect. Par contre, voilà, quand j'étais sur le terrain, ben, j'essayais de tout donner. Mais c'est vrai qu'on est loin du cliché où, oui, par contre, attention, à gérer. Maintenant, moi qui suis entraîneur, il y a des égos, même s'ils ne sont pas forcément parfois affichés, surdimensionnés.
Ah, c'est ce que j'allais dire, parce que toi, aujourd'hui, qu'à ton œil d'entraîneur, certes, on parle de gamin, on parle de mais on parle d'un vestiaire. On ne parle pas de champion d'Europe, champion du monde, on parle d'un vestiaire. Est-ce que toi, quand t'es arrivé dans le vestiaire du Real Madrid, tu as vu des demandes, des attentes, des exigences qui étaient d'un monde complètement étranger à ceux que tu avais connus par le passé à Bordeaux ou à West Ham notamment?
Non, parce que en France, on sait que la prise en charge est totalement différente. Il y a encore des clubs où les joueurs portent leur sac. En Angleterre, ce n'est pas du tout le cas. Quand tu pars en déplacement, tu as un magasinier qui s'occupe de toutes tes affaires. Toi, tu prends juste ta trousse de toilette. Au Real Madrid, c'est la même chose. Il n'y a pas… Après, la prise en charge est encore plus énorme. Enfin, j'ai vécu des choses ahurissantes. Mais tu te rends compte que non, il ne faut pas demander du caviar. Ils vont pas… Non, c'est normal. Parce que déjà, la prise en charge, elle est déjà au maximum, que tu n'as besoin de rien demander, en fait. En fait, tout est pensé, c'est ça. Tout est pensé pour toi, pour que tu n'aies qu'à te préoccuper du terrain, tout simplement.
Ouais. Bon, tu m'as parlé de légende. Mais toi, si tu dois en retenir une, parmi les Raoul, les Robben, les Cannavaro, les Sergio Ramos, les Casillas, s'il y a un personnage, une attitude, une mentalité qui t'a marqué, c'était laquelle?
Guti. Même s'il a joué au Real Madrid, il n'a pas eu la carrière que son talent mérite. Ouais. C'est un joueur, c'est un film. Il a fait des trucs extraordinaires. Moi, je me suis vu déborder sur un côté en pleine vitesse, l'appeler, il était tourné côté opposé sans me regarder, poum, il m'a mis un ballon dans les pieds, mais ça, il le faisait tout le temps. Élégant à avoir joué, gaucher. Par contre, gestion des émotions compliquées, et c'est quelqu'un de colérique. Donc, je l'ai vu partir d'entraînement en tirant le ballon en l'air parce qu'on n'avait pas sifflé de faute sur lui. C'est Guti, mais quel génie, c'était un génie. Enfin, c'était vraiment un joueur. Moi, on me demande tout le temps. Je dis, Guti, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en sont conscients quand ils l'ont connu parce que c'était un joueur extraordinaire. Mais je pense qu'il a été sous-coté par d'autres attitudes, surtout extra-football.
C'était sa limite, tu crois? Ça s'est joué à ça?
Je pense.
Bon, on arrive à la fin de ce prêt. Il y a la frustration parce que, comme tu dis, on a la sensation qu'on ne t'a pas donné ta chance. Mm-hmm. Mais avant ça, il y a eu pas mal de commentaires qui ont été faits. De France, beaucoup de France, beaucoup. Ouais. Mais aussi d'Espagne. Il y avait eu d'Espagne aussi, on t'avait demandé qui tu étais. Mais je vais m'arrêter surtout sur ceux de France parce que c'est ton pays. On a entendu plusieurs stars de foot le dire. Pourquoi est-ce que vous ne nous soutenez pas? Pourquoi est-ce que vous nous tirez pas vers le haut au lieu de nous mettre des bâtons dans les roues? Quand on a un jeune qui a fait ses gammes en France, qui a connu la Première Ligue et qui ensuite arrive à être appelé par le Real Madrid, peu importe le concours de circonstances, peu importe la surprise, quand on voit le nombre de critiques, de moqueries, de tout ce qu'on a eu sur toi, et encore aujourd'hui, ça reste encore.
Bien sûr.
Toi, tu l'as vécu comment?
Très bien. Très bien parce que je suis pas dupe. J'ai grandi avec ça de par ma couleur, parce que c'est la réalité. Il faut arrêter de se mentir. J'ai grandi avec ça de par ma couleur. Ça va un peu mieux quand tu deviens quelqu'un, mais je suis pas dupe. Donc, footballeur, entraîneur, on est jugé par des gens qui sont incompétents. Quand je dis les gens incompétents, je parle de pas mal de journalistes parce que ce n'est pas leur métier, ils ne connaissent pas grand-chose. Ils pensent connaître, mais ils ne connaissent pas grand-chose. Donc, ça ne m'a rien fait. Ça m'a touché que pour une chose, c'est mes enfants qui étaient petits, heureusement. C'est plus maintenant, ça me gêne par rapport à mes enfants parce qu'ils comprennent des choses. Eux en sont fiers, mais ils ont tellement vécu là-dedans qu'ils ont l'habitude. Mais c'est surtout ce qui m'a aidé, c'est ce que j'ai reçu d'Angleterre. Donc, à partir de là, je me dis, écoute, ton pays, tu as joué sous ce maillot-là, tu as chanté ton hymne national, tu as fait ce que tu avais à faire, Smoke, ben écoute, c'est pas très grave. Pour moi, c'est des incompétences. Ça m'a vraiment. Moi, j'ai énormément de détachement. Je pense que ça a été ma force aussi pendant ma carrière sur les journaux comme l'équipe ou les choses comme ça. Où tant que le mec ne s'appelle pas Ronaldo, Ronaldinho ou Ancelotti et qu'il me dit, voilà, tant que t'es pas un gars légitime pour me critiquer, ça me pose pas de problème. Donc, ça m'a survolé. Ça a été beaucoup plus dur pour d'autres choses, mais mes proches. Mais sinon, non, moi, ça m'a pas touché. Au contraire, et comme je dis, c'est notre mentalité. C'est la mentalité française. C'est pour ça que j'ai adoré vivre en Angleterre. C'est pour ça que je suis content que mon fils aîné et mon deuxième aient cette mentalité anglo-saxonne qui, en Angleterre, tu vas passer avec une belle caisse, tu peux être noir. Si le gars, il a kiffé ta caisse, il va te dire hey, bro, oh, j'adore ta voiture. En France, on va te regarder de travers et on va peut-être te soupçonner que tu trafiques. Donc, voilà, ça résume bien un peu notre mentalité. Et je comprends pourquoi pas mal de joueurs français partent en Angleterre quand tu vis des choses comme ça. Voilà. Mais c'est malheureux, je trouve ça malheureux. Après, comme je dis, c'est quand un club du Real Madrid te fait signer et paye 1,5 million d'euros, c'est qu'ils ont vu des choses en toi, c'est qu'ils ont vu certaines qualités en toi. Je n'ai pas eu l'opportunité de jouer, certes, mais on ne m'a pas fait de charité. C'est-à-dire que cet intérêt, je l'ai gagné sur le terrain. Donc, à partir de là, c'est pas très grave.
Bon, tu reviens à West Ham quand même, après ce séjour au milieu des étoiles. Mm-hmm. Est-ce que tu m'as parlé de perdre pied tout à l'heure quand tu es arrivé à West Ham? Est-ce que quand on revient à West Ham et qu'on revient du Real Madrid, parce que c'est quand même une sacrée marche au-dessus, est-ce qu'on se perd un peu?
Même encore maintenant, quand je discute avec des gens que je ne connais pas à l'extérieur, le retour que j'ai, c'est très souvent, t'es un mec accessible, t'es un mec avec qui on peut parler, tu ne te la racontes pas, et ça a toujours été mon cas. Je déteste les gens comme ça. Je déteste les gens... Par exemple, j'adore Zlatan, mais j'aime à croire qu'il est dans un rôle. Mmh. Voilà. Parce qu'il a tout compris. Il a tout compris à comment ça fonctionnait, et j'aime à croire que ce n'est pas du tout la personne qu'il est. Parce que j'ai un peu lu son histoire et son vécu. Voilà, il a compris un peu comment le monde fonctionnait, surtout en tant qu'immigré. Donc, il a compris. Mais j'aime pas les gens comme ça. Donc, à partir de là, je suis arrivé à West Ham, je suis revenu, j'ai revu mes potes et c'est reparti. Donc, par contre, je me suis pas mal fait chambrer quand on me faisait une passe. Oh, j'ai fait une passe à un joueur du Real. Donc, ça, c'est bon enfant. Mais non, moi, je suis pas quelqu'un comme ça. Je pense que, voilà, ma mère m'aurait mis. Voilà, elle aime pas ça, donc je suis resté quelqu'un. Non, je suis revenu normal dans mon vestiaire, à ma place. D'accord. Et surtout, je pense que j'ai été apprécié dans les clubs parce que j'avais un respect incommensurable pour les gens qui y travaillaient. Jamais jeté mes affaires par terre. S'il y avait mon magasinier, je lui donnais dans les mains. Si je restais, parce que je suis quelqu'un qui restait très souvent tard dans les vestiaires, quand il ramassait, je lui donnais un coup de main parce que ma mère a nettoyé un peu la merde des gens. Et j'aurais aimé qu'on la traite correctement. Donc, j'ai toujours eu ce comportement vis-à-vis des gens qui travaillaient au club avec un énorme respect. Donc, demain, je sais que si je retourne à West Ham et que le magasinier, c'est le même, si je lui demande 20 maillots, il va me donner 20 maillots. Parce qu'il sait que je ne l'ai jamais traité comme un chien. Et ça, je ne supportais pas. Donc, voilà, je suis resté moi-même, tout simplement. Je suis resté moi-même.
Bon, alors, la dernière petite interrogation que j'ai, c'est qu'à West Ham, et l'interrogation, elle est encore plus forte aujourd'hui parce que, après tout ce que tu m'as raconté là, l'incompréhension est grandie. Donc, il faut que tu m'éclaires. West Ham, club de cœur. Au départ, je disais West Ham-Bordeaux, mais là, de ce que j'entends, pour moi, West Ham, c'est presque encore un peu plus gros que Bordeaux. Donc, mais avec West Ham, tu vis tout, d'accord ? Comme dans une histoire d'amour. Il y a les moments forts, il y a les moments un peu compliqués. Il y a eu du drame avec la perte de ta maman, notamment. Il y a eu du magique qui t'a emmené au Real Madrid.
Oui.
Parce qu'en ton absence, le club n'a pas forcément brillé. Le club a connu des saisons compliquées. Mais quand tu reviens, tu vis aussi une descente où vous finissez 20e de Première Ligue, saison compliquée. Tu restes pour la montée. Donc, tu fais ta saison en Championship et tu revis la montée derrière. Bon, bah, Julien, pourquoi est-ce que je ne te vois pas dans l'effectif de retour en PL?
Parce que j'ai été tout simplement. J'assume toujours tout, à part peut-être celle-là. C'est-à-dire qu'on m'a proposé un contrat de 3 ans à la sortie de cette montée, contrat de 3 ans. En essayant de l'expliquer aujourd'hui, je pense que l'inquiétude de fin de carrière et de stabilité financière a joué beaucoup parce qu'on voulait me proposer 3 ans avec un salaire moindre. Et j'ai pas mal hésité. J'étais prêt à signer. Hein. Moi, c'était le cœur et rien d'autre. Mais je pense qu'à ce moment-là, j'ai été un peu crédule et j'ai écouté mon agent de l'époque. qui m'a dit « Mais non, tu ne vas pas signer pour ça, nana. » Alors que moi, c'était quand on m'a proposé 3 ans, je n'ai même pas parlé d'argent dans ma tête, c'était signé déjà. Et j'ai écouté mon agent de l'époque qui m'a orienté sur autre chose en Turquie. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais voilà, c'est un de mes regrets. J'en ai très peu dans ma carrière. Mais celui-là, c'en est un parce que pour moi, je me voyais finir ma carrière à West Ham.
Bon, la réussite, elle est là quand même. Mais c'est aux Girondins de Bordeaux que le grand public il commence à te connaître. Comment se fait la bascule du jeune gamin qui, certes, est surclassé à chaque fois, qui évolue avec l'ISCAN, mais qui arrive à taper à la porte des Girondins de Bordeaux? Et on remet le contexte parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent les Girondins de Bordeaux d'aujourd'hui où on ne sait pas trop où ça va, où c'est un peu chaotique malheureusement. Mais les Girondins de Bordeaux de l'époque, c'est un club beaucoup plus implanté dans le top de France. C'est un club très respecté. C'est un club avec une vraie ligne directrice. Mm-hmm. Comment ça se passe? Comment ça se fait?
Je suis démarché par mon agent de l'époque, par une personne qui vient me voir à l'ISCAN, qui me dit « Écoute, petit, je te suis depuis longtemps et j'ai 2 clubs professionnels pour toi. » Et moi, dans ma tête, je me dis, putain, top, je vais avoir des clubs de Ligue 2, je vais pouvoir un peu connaître le monde professionnel, monter d'un cran sur le monde professionnel et vraiment, je dis, non, j'ai 2 clubs de Ligue 1. À l'époque, c'était Lille, dirigé par Claude Puel, et les Girondins de Bordeaux, dirigés par Michel Pavon. Il y a un challenge. Il dit, moi, je ne suis pas fan que tu ailles à Lille, parce que ça ne correspond pas à ton jeu. Par contre, il y a Bordeaux, mais il n'y a rien de fait. Donc, je lui dis, OK. Je dis, écoute, il me dit, écoute, viens avec moi. Parce que j'ai aimé sa façon de travailler parce qu'il ne me cachait rien. Ouais. Donc, il m'a dit, tu vas venir avec moi, tu vas venir dans le bureau avec moi par le président Trio et on va voir. Donc, on arrive, le président Trio, parce qu'il était bien avec lui, il le reçoit et lui explique, voilà, j'ai un petit, voilà le petit, il vient de National, machin, il a des capacités énormes et je pense que ça peut être un bon choix pour toi. Trio réagit pas du tout comme on l'attendait. Donc, il dit, écoute, moi, j'ai des petits aussi ici. Je ne vais pas prendre un joueur de National que je ne connais pas. Je ne suis pas réellement intéressé. Et là, mon agent sort une carte qui m'avait pas, sur laquelle on n'avait pas parlé. C'était, il lui dit, voilà, écoute, fais-le signer 1 an. Et si au bout de 6 mois, il n'est pas titulaire chez toi, son année, je te la paye. Donc, il sort ça comme ça. Et Trio lui dit, non. Voilà, le petit, j'ai 100% confiance en lui. Je sais qu'il va exploser. Donc, prends-le. Et si au bout de 6 mois, il n'est pas titulaire indiscutable chez toi, Je te dis, je te paye son année. Mets-le sur papier, je te paye son année. Jean-Louis, il est un peu choqué. Il dit, écoute, vas-y, on fait comme ça, c'est parti. Et voilà comment je suis au Girondins de Bordeaux.
C'est incroyable.
Voilà.
C'est incroyable comme histoire. Mais attends, quand il dit titulaire, et on parle du groupe pro, l'équipe première. Mais c'est incroyable de faire
C'est ça. Il lui dit juste, écoute, prends-le en prépa. Il faut qu'il fasse partie du groupe pro.
Ouais.
Mais tu verras que le petit va tout arracher.
Et c'est incroyable. Et ce mec, tu le connaissais, parce que tu me dis, il t'a démarché, mais tu le connaissais pas d'avant, il n'y a pas de lien.
Je suis parti le voir, il avait un bureau à Monaco, je suis parti le voir une fois à Monaco, avant ça. Il est venu me voir, il me suivait dans l'ombre, et il est parti comme ça, il m'a dit, écoute, fais-moi confiance, si tu me fais confiance, tu verras que ça va aller. Et moi, j'avais personne qui s'occupait de moi, donc je lui ai dit, écoute, vas-y. Et c'est parti de là, j'attaque ma première préparation avec des mecs que j'ai vus à la télé, Gemali, Jurietti, Lasland, Darcheville. À l'époque, c'était une équipe de fous.
Ouais, t'as connu Denilson.
Il y avait encore Feinduno. Enfin, voilà, ouais. C'était une équipe de fous. Et je me dis, vas-y, ces mecs-là, je les vois à la télé. Et c'est parti de là. Et j'y ai vraiment été comme j'ai toujours été. C'est-à-dire, j'ai lâché les chevaux, en fait. Je m'entraîne avec eux, j'y allais. Et je pense que j'ai été adopté aussi par les anciens. Parce que moi, j'ai été élevé à l'ancienne, enfin, j'ai été conditionné à l'ancienne école. C'est-à-dire, la formation canoise, c'est l'ancienne école. C'est-à-dire, les petits, quand tu es plus jeune, tu la fermes. Un ancien, il te parle, tu t'es. Quand il te dit, va me chercher ça, tu te lèves. Même si tu es KO, tu vas chercher ça. Quand tu es assis sur une table de massage et que tu as un ancien qui arrive, boum, tu te lèves, tu t'en vas, même si tu es en train de faire tes soins. Et je pense que j'ai été adopté grâce à ça parce que j'avais mon côté respectueux, mais hors du terrain. Par contre, sur le terrain, pour moi, on était tous pareils. Et s'il fallait que je rentre dans quelqu'un, je rentrais dans quelqu'un. Et la politique aussi de Bordeaux m'a aidé énormément. Ils avaient un souci de renouveau, donc pas beaucoup d'argent. Donc, ils faisaient jouer pas mal les jeunes. Et ça s'est fait après où je fais la préparation, une très bonne préparation. Ils me convoquent dès le premier match dans le groupe contre l'OM, là-bas, au Vélodrome.
Ouais, moi, je me rappelle, j'allais te le dire.
Moi, j'arrive Vélodrome, je me dis, wow, mais c'est quoi ce truc, machin, ma mère, machin, nan, nan. Je rentre 2 minutes, je crois. Le troisième match d'après, on joue à Bastia. Mm-hmm. Il vient me voir dans ma chambre Et il me dit, petit, à midi, il me dit, petit, bon, ce soir, tu vas commencer. Alors, comment te dire? D'habitude, je fais une sieste, pas dormi. Et paradoxalement, pareil, il s'est passé un fait de jeu où j'essaie de faire un crochet dès le début du match. Je fais un crochet, je rate mon crochet. Contre-attaque, le gars, il centre, marque, but. Donc, on perd 1-0, un peu à cause de moi. Un homme que j'ai adoré, c'est Michel Pavon, le coach, qui vient me voir à la mi-temps, qui me dit, écoute, petit, tu n'as plus rien à perdre. Soit tu t'effondres et ta carrière, ça va être compliqué. Soit tu te lâches et crois-moi que ça va être parti. Mais là, on va vraiment voir, entre guillemets, il m'a parlé comme ça, on va vraiment voir si tu as des couilles maintenant. Je rentre et là, c'est parti. Je suis parti côté droit, je déborde, je centre. Je pars plein axe, centre, but, ballon de Kamel Meriem, crochet, but. Et à partir de là, je ne suis plus jamais sorti de l'équipe. C'est parti de là.
Ce que j'allais dire quand même à Bordeaux, c'est un peu sur la même trajectoire que ce que tu as fait avant, c'est-à-dire que tu arrives par la pointe des pieds, entre guillemets, par la petite porte, et une fois que tu es installé, tu pètes tout.
C'est ça.
À Bordeaux, tu m'arrêtes. Hein. Ouais. Mais en Ligue 1, c'est 36 matchs, 33 matchs, 26 matchs. Tu mets même 5 buts en 2005-2006.
C'est ça.
C'est-à-dire que l'ascension, elle est rapide quand même.
Oui.
En chiffre, on a l'impression qu'il y a tout qui roule, que tout est facile, que c'est normal. Tu sais que tu es un historique, c'est normal. Mais comme tu dis, il y a une adaptation à Bordeaux, tu es au milieu des grosses personnalités quand même de l'histoire du club. Tu m'as parlé de ton respect des anciens, mais il n'y avait pas que les anciens, il y avait les petits jeunes aussi autour, il y avait la pression, il y avait tout ça, il y avait la pression du résultat, parce qu'encore on parle du Bordeaux de l'époque. Comment ça s'assimile tout ça pour un jeune joueur à l'époque?
Je suis quelqu'un qui analyse pas mal la situation et analyse pas mal. Un vestiaire, ça s'analyse en fait. On n'arrive pas dans un vestiaire en pays conquis, on n'arrive pas dans un vestiaire en ayant, entre guillemets, c'est une expression, mais la queue entre les jambes, on arrive dans un vestiaire où d'abord, il faut analyser. Analyser les gens influents, analyser un peu la façon dont vit le vestiaire, essayer de se calquer sans jamais perdre son identité, son caractère. Et je pense que je suis assez bon là-dedans. Et c'est vrai qu'au départ, je suis arrivé sur la pointe des pieds, mais je pars du principe où dans le football, il faut avoir une légitimité. Je ne vais pas arriver, moi, venant de National, crier haut et fort si, ça, ça, alors que je n'ai rien prouvé. Et je pense que la vérité, elle se passe sur le terrain. Et c'est vrai que le poids que j'ai pu avoir dans le vestiaire à Bordeaux a augmenté par mes performances et a augmenté par le fait de ma régularité. Et là, par contre, tu commences à avoir un peu plus de poids, donc tu peux te permettre certaines choses. Et c'est ce que parfois certains jeunes oublient, c'est que avant tout, c'est le terrain qui parle. Et quand tu arrives sur des choses comme ça, il faut avoir ce recul en te disant, écoute, pour l'instant, je ne joue pas, je ne suis pas titulaire, Donc, bosse. Et après, tu vas pouvoir te permettre des choses, tu vas pouvoir te permettre de gérer aussi certains entraînements, parce qu'il le faut. Mais je pense que c'est comme ça que j'ai géré les choses, et c'est comme ça que j'ai toujours géré les choses. Tes mots ont plus d'impact, ou ton attitude a beaucoup plus d'impact si tu restes performant sur le terrain, quoi qu'il arrive.
En termes de résultats, parce qu'on parlait d'être performant, en termes de résultats, tu connais un peu tout à Bordeaux. Tu connais des saisons compliquées, ou le club, même si toi, personnellement, tu fais tes stats, hein, tu fais tes matchs, t'es un personnage important de l'équipe, mais l'équipe, le collectif, il y a des deuxièmes parties de tableau. Il y a en 2005, où vous faites une belle deuxième place. Toi, personnellement, t'en gardes quoi comme souvenir de ton premier passage à Bordeaux?
Ça fait partie de mes meilleurs moments dans le football, parce que c'est, contrairement à maintenant, Bordeaux a eu toujours cette réputation de club famille, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que à mon deuxième passage, je suis retourné, il y avait encore les mêmes personnes que j'ai pu connaître étant jeune, et il y avait une bienveillance vis-à-vis des jeunes, en fait. Voilà, on était vraiment chouchoutés, coucounés, et c'était vraiment un truc extraordinaire. Et je me suis vu négocier des primes avec mon ancien président, qui était comme un père pour moi, c'est Jean-Louis Triaud, en se serrant la main. On se serre la main, il me dit, écoute, voilà, on prime, tac, on se serre la main, c'est rien d'écrit, je m'en vais, tu peux être sûr que l'année d'après, j'avais mes prix, mais il n'y avait rien d'écrit. Ça a toujours été cette loyauté, et j'avais un rapport avec les supporters aussi assez spécial, parce que je pense que, comme l'humain, on sait quand tu triches et on sait quand tu ne triches pas. Et je pense que ça, sans m'envoyer des fleurs ou autre, c'est que je n'ai jamais triché sur un terrain. Et j'ai toujours donné 100%, j'ai toujours aimé me tuer sur un terrain, parce que si je peux employer cette expression, mais enfin, c'est viscéral chez moi quand je suis sur un terrain, c'est comme ça, et je pense que ça se ressent au niveau des supporters. Ça s'est ressenti à Bordeaux et aussi à West Ham, je pense, mais ce club là c'est là où j'ai tout appris, tout découvert, avec une bienveillance autour de moi, une bulle autour de moi qui a fait que j'ai pu éclore comme ça, de cette manière.
Aujourd'hui, quand tu regardes le foot, tu vois, tu me parles de cette bienveillance, mais on sent du On sent de la nostalgie, on sent du presque un peu de regret par rapport au foot d'aujourd'hui. C'est vraiment mieux avant.
Oui. Oui, sans aucune hésitation, c'était mieux avant. C'est-à-dire que je pars surtout sur le... Ça se fait encore un petit peu dans certains clubs, mais cet esprit collectif qui existait, cet esprit de vivre ensemble. Moi, j'avais des anciens qui m'emmenaient au resto, qui prenaient tous les jeunes et qui les faisaient manger chez eux. Enfin, on avait ce partage. Et c'est vrai que en ayant les mêmes objectifs, hein, en ayant les mêmes objectifs de toucher la Ligue des Champions ou d'essayer de gagner une coupe ou autre, mais il y avait une vie autour du football. Et voilà, maintenant, ça va avec l'air du temps, mais on est rentré dans un réel football business, où il n'y a plus de place pour quoi que ce soit. Il n'y a plus de place, je pense, pour l'humanité hors football. Et c'est ce qui est dommage, parce que ça reste un jeu. Les gens oublient, mais ça reste un jeu. Même s'il y a énormément d'argent, énormément de risques, parce que voilà, les présidents sont des chefs d'entreprise, donc c'est logique. Mais il ne faut pas oublier que ça reste un jeu. Donc à partir de là, il faut... voilà, c'est un peu la nostalgie, mais je pense que je ne suis pas le seul. Nous, on a cravaché étant jeune. Mais c'est tant mieux pour les jeunes qui arrivent maintenant, tant mieux. J'ai mon fils qui est un peu dans le même... qui arrive dans cette génération-là, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une éthique quand même dans ce sport qui est importante, et c'est le respect de l'humain, mais ça n'existe plus, je pense, ou plus trop.
L'actu, c'est quoi? Parce que les gens étaient un peu perdus de vue.
Ben, l'actu, c'est que moi, j'ai arrêté ma carrière il y a 2 ans et demi. Mm-hmm. Je suis tout de suite entré dans ma reconversion, parce que moi, ça a mûri dans ma tête assez rapidement sur la fin de ma carrière. Donc, j'ai passé mon diplôme l'année dernière du BEF, donc c'est mm-hmm. UEFA A. Et en parallèle, voilà, j'aimerais rentrer au DES, donc c'est pour entraîner en National 2 National l'année prochaine. Et en même temps, je suis entraîneur principal des 17 ici à Fréjus et adjoint en National 2 aussi avec Jean-Guy Wallem, un ancien de Ligue 1. J'apprends et j'essaie de mettre en pratique également et de mettre en pratique ma vision du foot. Donc, je suis pas mal pris parce que je fais les entraînements le matin avec la N2 et le soir avec les 17. Mais je kiffe, quoi. Je fais ce que j'aime, je continue à faire ce que j'aime et ce que je sais faire surtout. Donc c'est le top.
La transition, elle s'est faite naturellement ou il a fallu s'adapter quand même?
Non, franchement, ça s'est fait assez naturellement. Je savais que j'arrivais un peu sur la fin, mais j'ai encore ce goût encore un peu de joueur et c'est ce qui m'aide aussi. Mais non, franchement, je n'ai pas eu de soucis psychologiques et tout. Moi, je m'étais préparé déjà. Dès que je suis arrivé vers les 32, 33, j'étais déjà préparé dans ma tête. Je savais que d'ailleurs, la carrière de footballeur est très courte. Donc j'ai pas gambergé beaucoup, j'ai vite rebondi, réagi, donc ça m'a pris pas mal de temps, donc pas le temps d'y penser. Mais avec le recul, non, franchement, je le vis très bien.
Ouais, c'est tout ce que je te souhaite, et puis on va croiser les doigts pour que tout se passe bien et que tu puisses être en National 2, du coup, c'est ça l'année prochaine, National l'année prochaine?
Ouais, écoute, moi, pour l'instant, je suis adjoint, donc je suis les marques de Jean-Guy Wallem, qui a plus de bouteilles que moi et qui a pas mal de choses à transmettre. J'aimerais peut-être un jour entraîner au très haut niveau, mais avant ça, il y a énormément de travail et énormément de choses à faire, mais voilà, je step by step, comme on dit, je fais les choses au fur et à mesure et je ne brûle pas les étapes.
Il n'y a pas de trajet, parcours de carrière qui est déjà tout tracé avec des dates butoirs où tu aimerais être à un certain moment, par exemple,
Ouais, je suis quelqu'un d'assez, j'ai toujours été ambitieux, même quand j'étais joueur. Quand je commence quelque chose, mon but est d'aller à l'excellence, y arriver ou pas, ça reste à définir, mais je veux aller vraiment au plus haut, donc oui, là, je vais passer les étapes tout doucement et mon but, c'est d'aller vraiment au plus haut niveau et pourquoi pas entraîneur un jour en Ligue 1 ou en Champions League, on verra.
On croise les doigts. Bon, Julien, merci.
Merci à toi.
Prends soin de toi. Les autres, continuez de kiffer les call interviews parce que c'est des moments de plaisir. Tu voulais dire un truc?
Ouais, il faut que je te demande un truc. Ils m'ont fatigué avec ça. Est-ce que tu peux faire une dédicace à Noam et Yanis? C'est eux. Papa, il faut que tu lui demandes en plus. Quand ils vont savoir, Yanis, viens. Viens dire bonjour, viens.
Elle est là en plus, il est là le plus beau, la star, elle est là. Comment tu vas?
Ça va.
Voilà, je t'en remercie.
Ah, il est beau ton gamin, il est beau.
Merci beaucoup, merci.
Noam et Yanis, c'est ça?
Noam et Yanis, c'est ça.
Ok, Noam et Yanis, big up, vous avez le meilleur papa du monde. Et continuez de suivre les call interviews, les gars, parce que sans vous, je suis rien. Donc, continuez de kiffer le foot, continuez de kiffer votre papa et restez des bons petits garçons parce que c'est important. C'est important.
C'est gentil, je te remercie.
Ciao Julien.
Merci Flo, merci.
Merci.
Ciao. Ciao.
Et voilà, my goalers, surtout, comme nos chanceux du jour, si vous voulez poser vos questions à nos prochains invités, n'oubliez pas, tout se passe sur mon compte Instagram. Chaque fois, je vous mettrai une petite story pour vous annoncer à quel invité on aura droit cette semaine et vous pourrez balancer toutes les questions que vous voulez lui poser. Les meilleurs, les 5 meilleurs seront choisis pour être posés à notre invité.